Avec le développement de l'enseignement à distance, de nouveaux défis ont émergé, autant pour les professeurs que pour les étudiants. Entre le manque d'interaction, la faible participation et cette impression de parler dans le vide, il n'est pas toujours facile de maintenir l'engagement en ligne. Pourtant, certains cours réussissent à créer une véritable proximité pédagogique malgré l'éloignement physique. En tant que conseiller pédagogique, on accompagne les professeurs dans cette transformation de leur pratique. Garder les étudiants engagés, favoriser les interactions significatives, rendre l'apprentissage en ligne plus humain, c'est tout un défi. C'est pourquoi on aborde le concept de présence à distance. On va se pencher sur les stratégies concrètes qui permettent de recréer une véritable dynamique d'apprentissage en ligne.
Les beaux rôles avec Géraldine Lucier.
Je discute dans le cadre de porte avec mes collègues Alexandre Dalpan, CP à l'Université Laval, et Marie-Noëlle Corriveau-Tendland, CP au Cégep de Lévis. Bonjour!
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 La période pandémique a mis en lumière cette préoccupation de présence à distance. Mais vous, ça a été quand votre premier contact avec ce concept-là?
Bien, moi, ça n'a pas été pendant la pandémie. Ça a été avant ça, parce que je n'ai pas enseigné à distance. Je n'étais même pas CP, dans le fond, au moment de la pandémie. Mais avant la pandémie, je travaillais au ministère, puis je donnais des formations en ligne sur une plateforme qui était plus ou moins conviviale. Mm-hmm. Et j'avais quand même beaucoup de choses à dire aux gens qui étaient souvent nombreux en ligne. Et mon Dieu que c'était plate, tellement plate. Puis là, vous me direz, c'était ministériel.
Je n'aurais pas osé le dire.
Moi, je me permets. Mais non, mais vraiment, tu sais, je m'entendais, puis je me trouvais plate, pas dynamique, alors que généralement, je suis quand même pas si pire.
T'es vieux avec toi-même.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était vraiment du déversement d'informations. Puis je me posais la question, là, mais comment je vais faire pour rendre ça, tu sais, un peu plus... sympathique, un peu plus, pas que c'était pas sympathique, mais un peu plus dynamique. Ouais. Donc, c'était vraiment ça ma préoccupation. Post-pandémie, j'ai découvert que oui, ça se pouvait d'avoir une espèce de présence à distance en faisant des cours moi-même à distance avec des chargés de cours que j'ai jamais rencontrés, mais qui ont réussi de diverses façons à le créer, ce lien-là. Donc, je suis vraiment très curieuse d'entendre comment vous l'avez vécu puis comment vous y arrivez.
Bien, moi aussi, j'ai suivi plusieurs cours en ligne. Puis, il y en avait où il y avait vraiment cette connexion-là avec le chargé de cours ou d'autres. C'était complètement asynchrone. Puis, c'est clair que mon engagement n'était pas du tout le même. Pour ce qui est de l'enseignement, j'ai enseigné un petit peu dans la pandémie. Ça a été quand même court et pas très efficace et dynamique. Non, c'est pas mon meilleur souvenir, vraiment pas. Puis sinon, c'est sûr que comme CP au collège, j'accompagne pas de prof là-dedans parce qu'il n'y a pas d'enseignement à distance. Donc, c'est ça. Et toi, Alexandre?
Moi, de mon bord, j'ai eu l'occasion d'en croiser ce concept de présence à distance à plusieurs reprises. Des formations, des ateliers suivis en ligne par des personnes qui présentaient ça de façon... des fois efficace, des fois moins. Là, c'était pas tout le monde qui s'en sortait à faire de la présence à distance dans des cours en ligne. Puis, d'un coup, on a eu un changement de vie avec Madame COVID qui est arrivée, donc beaucoup de choses qui ont évolué. Mais c'était souvent du distance à distance qu'on vivait malheureusement à cette époque-là. Puis, je pense que c'est vraiment là qu'on a connu les pires mayonnaises pédagogiques de l'histoire de l'éducation. Et certains cours étaient donnés à cette époque avec beaucoup de volonté, mais ça revenait à tourner des œufs, des jaunes d'œufs, la moutarde pendant 30 minutes.
Finalement, tu brises l'émulsion dans ça.
Exactement, ça ne levait jamais. Personne n'embarquait là-dedans. Mais bon, il faut quand même être indulgent. On essayait de survivre à cette époque-là, fait que c'est correct. Bon, maintenant, on est ailleurs. Mais mon premier vrai contact, mon présence à distance, puis je ne dis pas qu'il a été bon, c'est moi qui l'ai donné quand j'ai fait des cours. Je donnais des cours à l'intégration du numérique au collégial. Puis, tu sais, j'essayais de recréer un peu cette alchimie-là, mais de rendre ça fun, d'être en présence autant qu'en classe, et en mettant en place différentes stratégies, mais principalement de prioriser les échanges avec les personnes à distance, parce que les étudiants sont chez eux tout seuls, avec leur chat sur les genoux, des fois en pyjama. T'sais, c'est pas facile, il n'y a pas cette petite alchimie que tu as en classe où ils échangent au fond de la salle, ça te gosse un peu, mais ça fait partie de l'ambiance. Tu sais, t'as pas ça. Puis aussi, quand tu es à distance, tu as tous les enjeux techniques, là, qui fait que faire preuve un peu d'humilité, de transparence, quand ça marche pas, tu les étudiants, je suis quelqu'un de normal, puis ça ne marche pas, c'est ça. Ouais.
Et en quoi ce concept-là de présence à distance peut être utile?
Alexandre l'a mentionné, là, je pense que c'est important d'essayer de compenser, là, si je peux dire, l'absence de contact physique, là, mais en tout cas, bref, de présence.
En place.
C'est ça, sur place. Moi, je le sens un peu dans mon animation d'un groupe de co-développement. En ligne, on ne s'est jamais rencontré en présence, mais des petits gestes, des petites activités brise-glace, par exemple. On va parler d'humilité quand ça va pas ou quand il y a quelque chose qui marche pas, on le dit parce que c'est pas évident parce qu'on est à distance. Mm-hmm. Mais juste ces petites choses-là, ça fait vraiment, vraiment une différence.
Ouais. Ah, c'est sûr. Tu recrées une certaine chaleur humaine, finalement. Puis je pense que un des intérêts d'avoir ce concept-là à l'esprit, c'est surtout que ça te permet de renforcer l'engagement des étudiants, puis recréer une relation pédagogique finalement qui est stimulante pour tout le monde, puis le prof y compris. D'avoir une ambiance qui soit sympathique, sécuritaire, ça va stimuler l'interaction du groupe finalement. Puis on se le cache pas, c'est bien plus agréable quand t'enseignes, quand c'est comme ça, c'est sûr.
Mais on s'entend que c'est vraiment nécessaire là, pour favoriser l'engagement des étudiants, mais je pense aussi que c'est utile pour assurer un encadrement qui va être aidant de la part des profs là, auprès de ces étudiants. C'est quoi les principaux défis auxquels vous avez fait face lors de vos accompagnements, Alexandre?
Mais principalement, moi, je pense que le principal défi derrière ça, c'est de recréer l'interaction et l'échange qu'on retrouve dans une classe. Ça me fait penser à un exemple là, de le centre de démonstration en sciences physiques du Cégep Garneau. C'est un organisme qui s'adresse aux élèves du primaire et secondaire. Ils ont réussi, par exemple, à recréer de l'interaction avec leurs élèves à distance en leur permettant de manipuler du matériel qui leur avait été envoyé préalablement par la poste. Donc, une belle petite boîte avec plein de matériaux différents afin que le conférencier, qui lui, normalement, fait ça dans un amphithéâtre devant les élèves, puisse le faire derrière un écran, puis que les élèves puissent manipuler, eux, en classe avec leur prof. Ça a bien marché. Peut-être que l'idée était très intéressante. Mais c'est sûr que moi, personnellement, je pense que le meilleur compromis, quand c'est possible, c'est de faire de l'hybride. Ça facilite la création d'un lien pédagogique, notamment quand tu vois tes élèves au début de la session et à la fin. Idéalement au milieu, quand tu es capable. C'est pas toujours possible, mais je trouve que ça aide beaucoup.
Effectivement, là, tu sais, la COVID étant derrière nous, quand on peut avoir créé le lien d'abord en présent, je pense que ça fait quand même une bonne différence. Puis ça nous permet de garder cette espèce de présence à distance après.
En effet, ça doit être pas évident d'accompagner des équipes si on n'a pas créé ce lien-là. Puis on sait qu'il existe quand même beaucoup d'outils qui peuvent aider les profs là, dans ces interactions-là. Et je pense que c'est important de le réfléchir dans sa planification puis de voir c'est quoi les actions qui peuvent être mises en place. Mm-hmm. En fait, c'est pas de l'improvisation.
Non, clairement pas.
De beaux défis.
Oui.
Merci à vous deux. À la prochaine.
Merci beaucoup.
Merci, bye.
J'ai le plaisir d'accueillir Caroline Bourque, conseillère en pédagogie numérique au service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke. Également chargée de cours en ligne depuis 2012, elle a consacré sa thèse de doctorat à la motivation des apprenants universitaires en formation à distance. Et en plus de jongler avec ses nombreux rôles professionnels, elle est aussi maman de 3 jeunes enfants, ce qui veut dire que ses nuits sont plutôt courtes. Bonjour Caroline!
Bonjour, Géraldine.
Femme très occupée?
Oui, effectivement. Les nuits sont peut-être courtes, mais je suis toute là.
Ça me rassure. Donc, pour commencer, j'aimerais ça qu'on définisse le concept de présence à distance. Donc, qu'est-ce que ça signifie réellement?
OK. En formation à distance, le nom le dit, hein, il y a l'enjeu de la distance. C'est la distance physique ou c'est la distance temporelle. L'avantage, ça offre de la flexibilité, mais par contre, ça amène des dangers. Par exemple, la distance physique, ça a pour impact que les étudiants, ils se sentent plus isolés, plus seuls. Et ça, d'ailleurs, l'isolement, c'est un des principaux facteurs, selon les recherches, pour l'abandon en formation à distance.
OK.
Donc, présence à distance, finalement, ça renvoie à la capacité d'établir un lien significatif dans ce contexte de distance. Ça peut être la relation entre les étudiants eux-mêmes ou encore avec l'enseignant. Il y a un chercheur, Garrison, avec ses collègues qui se sont intéressés à cette question-là puis ont déterminé 3 types de présence. Selon eux, il y a la présence enseignante. Donc ça, c'est ce que l'enseignant fait pour organiser, structurer son cours. Il y a la présence cognitive qui, elle, se développe par l'utilisation des éléments déclencheurs, finalement, la résolution de problèmes. Et finalement, il y a la présence sociale. Ça, c'est la capacité des étudiants d'interagir et d'établir des liens entre eux.
Donc, il faut les mettre en action pour toucher à ces présences-là.
Exactement. Il y a plusieurs façons de pouvoir le faire.
Et comment on peut concrètement là, améliorer la présence à distance? Peux-tu me donner des exemples à partir des types de présence qu'on vient de voir?
Oui, bien absolument. Écoute, Géraldine, il y a tellement de façons de favoriser la présence à distance. Ça n'a peut-être pas l'air, mais c'est le cas. Par exemple, pour la présence à distance, j'aurais envie de nommer l'organisation de la plateforme. C'est tellement important.
OK.
L'étudiant, il est seul. Il a besoin d'autonomie, mais ce n'est pas toujours facile de développer son autonomie dans un contexte où, justement, il est seul chez lui. Les étudiants que j'ai rencontrés dans ma thèse le nommaient. Je suis tout seul chez moi, je n'ai pas le prof avec moi. Donc, certains avaient de la difficulté à se retrouver sur la plateforme. Ça prend donc une plateforme organisée. Ça permet de venir créer finalement le sentiment de présence enseignante si l'étudiant est capable de bien se repérer pour ça. Pour la présence cognitive, ça peut être fait par des défis stimulants, des études de cas. L'enseignant avec les étudiants, quand ils commencent un nouveau contenu, il peut, par exemple, aller chercher leurs connaissances initiales, y aller avec un élément déclencheur. Et pour la présence sociale, en fait, ça serait de les mettre en situation d'interaction avec des travaux d'équipe, par exemple, où ils peuvent collaborer.
As-tu d'autres exemples?
Oui, ils sont pas nécessairement liés au type de présence, mais je vais y aller avec ce qui me vient. Rencontre de présentation au début de session, c'est toujours gagnant. On crée un premier contact avec les étudiants. Des activités brise-glace aussi. On peut mettre plein de petites activités. Ça peut permettre même de mieux les connaître sur le plan personnel aussi. C'est quoi leurs défis? C'est quoi leur projet? Des choses comme ça. Comme enseignant aussi, il faut se permettre d'être authentique, vulnérable même. On a le droit de faire des erreurs, utiliser l'humour, des anecdotes. Donc ça, c'est quand même important. Puis justement, ça vient créer la relation. Finalement, ce qui me vient en tête aussi, c'est dans les rencontres synchrones, s'assurer d'ajouter du dynamisme, des interactions. Les étudiants, on veut qu'ils soient actifs. Donc, on peut les questionner, les faire participer, utiliser plein d'outils numériques pour rendre justement cette rencontre-là plus dynamique.
Donc, je retiens que le côté humain est vraiment important, là, puis d'accepter qu'on n'est pas parfait.
Oui, exact. Puis, il y a quelque chose qui me vient en tête. Quand on fait, par exemple, des vidéos, là, je parle de mon expérience comme enseignante, je fais une vidéo de présentation, puis tout à coup, j'ai un enfant qui pleure ou mon chat qui arrive sur le bureau, ben je le dis. Puis, même à la limite, ça rend ça plus agréable, plus naturel.
Oui. Caroline, c'est quoi les principaux obstacles à la présence à distance?
Bon, écoute, c'est pas simple, Géraldine, mais c'est sûr qu'il y en a. La distance elle-même en est un, donc déjà, il faut être capable d'aller au-delà de ça. L'enseignant, il a un grand rôle à jouer, ça c'est sûr, mais par contre, il contrôle pas tout. Sa personnalité, par exemple, un enseignant qui va être très charismatique, contrairement à un autre qui va être plus réservé, plus timide, c'est sûr que le résultat il est différent, puis il faut quand même qu'il puisse se respecter là-dedans, qu'il choisisse des méthodes qui lui conviennent. Les étudiants aussi n'ont pas toujours le même intérêt et l'ouverture à créer des relations, des liens. Il y en a qui se connectent une fois par mois, qui ne participent jamais. Personnellement, j'ai tendance à les appeler pour être capable de voir comment ça va, puis c'est quoi leurs attentes et tout ça. Mais il y en a que tout ce qu'ils veulent, mais c'est de faire le cours puis avoir les crédits. Il faut les respecter là-dedans.
Et penses-tu à d'autres obstacles?
Peut-être le délai. C'est-à-dire, en formation à distance, il y a nécessairement un délai, même si on met plein de choses en place pour éviter que ça arrive. On le dit plutôt, la distance temporelle. Par exemple, un échange dans un forum ou une question par courriel, il va nécessairement y avoir un délai. Le retour, il ne sera pas instantané, là.
Mais il faut quand même s'assurer, j'imagine, que ce délai-là soit le plus court possible.
Ça, c'est certain. C'est pas toujours possible, mais oui, et c'est important pour ça, donc, que l'enseignant se connecte régulièrement.
OK. Comment la présence peut être maintenue dans les activités asynchrones quand on sait que l'interaction directe là, est absente?
J'adore cette question-là, Géraldine. Bon, pour que ce soit clair, d'abord, asynchrone, ça veut dire qu'on n'est pas ensemble au même moment. Donc, on parle vraiment là, de différé. Donc, ce que ça prend, on vient de l'évoquer, c'est la présence virtuelle. Donc, vraiment de se connecter régulièrement à la plateforme, idéalement chaque jour, d'être présent dans les outils, d'inviter les étudiants à nous contacter s'ils ont des questions, de se montrer finalement disponible.
Okay.
On répond rapidement, de façon chaleureuse. Puis, on peut aussi dire aux étudiants, les inviter eux-mêmes à se connecter régulièrement. C'est intéressant aussi d'avoir un message de la semaine. Tu sais, quand on ne se rencontre pas à chaque semaine en synchrone, un message de la semaine, là, ça vient vraiment encadrer, aider l'étudiant en fait à mieux comprendre où il est supposé être rendu dans son travail et tout ça. Donc, ce message-là, à chaque semaine, peut être envoyé pour venir guider, motiver les étudiants, leur rappeler les échéances, par exemple.
Et comment on fait pour créer un premier contact en asynchrone?
Ah, bon point. C'est vrai qu'on n'a pas toujours de rencontres synchrones. Dès que le cours commence, le premier contact en asynchrone est vraiment important. Bon, c'est sûr, un courriel standard où on écrit à tout le monde, à tous les étudiants, ça va de soi. Mais sinon, je propose vraiment de faire une vidéo de présentation de l'enseignant pour qu'il crée un premier contact, qu'il se présente. Et quelque chose que je trouve très important aussi, c'est d'avoir un forum de présentation. Et là, les étudiants vont aller se présenter, le nom le dit, individuellement. Et je recommande fortement que l'enseignant prenne du temps pour aller répondre individuellement à chacun. Ça peut être une réponse courte, mais de revenir sur un des éléments de leur présentation. Puis ça, même si ça prend du temps, c'est vraiment payant, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour l'enseignant, parce que là, il va mieux connaître ses étudiants.
J'avoue que j'ai souvent suivi des cours à distance, puis je devais me présenter. Et quand le prof venait personnellement répondre, je me sentais comme touchée un peu, si on veut. Là, je sentais que j'étais importante, donc bon truc, effectivement.
Ben, c'est exactement ça. Puis comme enseignant, quand on répond aussi, on se sent plus proche de l'étudiant.
C'est quoi la place du numérique dans la présence à distance? Est-ce que c'est paradoxal de miser sur le numérique pour pallier l'expérience humaine?
Non, je pense pas. Pas du tout, Géraldine. En fait, pour moi, le numérique rapproche. Si on pense à la technologie de façon générale, dans son sens large, ça a toujours contribué à nous rapprocher des autres. On peut penser à la télé, la radio, les téléphones, les cellulaires. C'est ça qui nous permet de rester en contact avec les gens qui sont plus proches de nous. Et là, ici, je pense que c'est pareil. Le numérique, sans ça, ben tout ce qui nous reste, c'est la distance. Personnellement, j'enseigne en ligne quand même depuis longtemps, puis j'ai toujours eu l'impression, quand je suis avec mes étudiants en ligne, je suis en relation avec un étudiant de façon individuelle, contrairement à quand j'enseigne en présence, où j'ai l'impression plutôt d'être en relation avec un groupe. Puis tout ça, c'est grâce à la technologie. Il faut vraiment utiliser les outils concrètement qui sont mis à notre disposition. Il y en a beaucoup, comme les outils de webconférence. Quand on fait une rencontre synchrone avec nos étudiants, on peut utiliser le tableau interactif, les sondages, les salles par petits groupes, le courriel, le téléphone aussi, ça existe encore.
Ça existe encore?
Tout à fait. Puis, quand on corrige des travaux, par exemple, on peut utiliser des outils pour nous permettre de faire une rétroaction, soit audio, vidéo, ou encore de travailler sur des documents collaboratifs. Donc là, ça nous permet de se sentir plus près des autres.
Pour terminer, Caroline, quel conseil donnerais-tu à un CP qui accompagne des profs dans le développement de leur présence à distance?
Ben, en fait, je l'ai dit plus tôt, il faut avoir en tête que l'enseignant a un grand rôle à jouer parce qu'il est capable d'intervenir sur tous ces types de présence-là. Mais là, ça peut avoir un avantage comme un inconvénient. L'avantage, c'est que l'enseignant a du contrôle, finalement, a du pouvoir sur ce qui peut changer. L'inconvénient, c'est que ça peut être lourd sur ses épaules parce qu'il a l'impression qu'il a une grande responsabilité. Donc, mon conseil, ça serait d'aller vers l'enseignant, voir avec lui qu'est-ce qu'il fait déjà, miser sur ses bons coups, puis après ça, de voir avec lui c'est quoi la situation actuelle, mais aussi c'est quoi la situation attendue. Et là, ensemble, dans le dialogue, ben, on peut déterminer qu'est-ce qu'il aimerait apporter comme changement concrètement. La théorie des petits pas, hein, un changement à la fois, selon son temps, selon ses compétences aussi. Et là, il va vraiment pouvoir se sentir plus en contrôle, finalement.
Tu nous as donné beaucoup d'exemples concrets pour mettre des stratégies en place. Ça va être très utile. J'aime beaucoup l'idée, en tout cas, des petits pas. Je pense que ça va nous permettre d'éviter de se mettre de la pression inutilement. Merci beaucoup, Caroline.
Ça m'a fait plaisir, Géraldine. Très intéressant comme discussion.
La série balado Les beaux rôles est une création d'Immersion CP, soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université de Sherbrooke. Animation, Géraldine Lussier. Co-animation, Alexandre Dalpan et Marie-Noëlle Corriveau-Tendland. Scénarisation, Félix Arguin. Réalisation, Phonique. Merci à nos invités pour leur contribution.